Bonjour et bienvenue sur la première des caboches. Les caboches, c'est vous. Ce sont des portraits, des bouts de vos vies racontés et répercutés dans les bartasses. Des histoires que j'ai eu envie de capter parce qu'elles révèlent des choses, qu'elles intriguent, qu'elles étonnent, ou qu'elles touchent juste là où on ne les attendait pas. Dans cette première émission, on entre dans la caboche de Céline. Nous nous sommes donné rendez-vous chez elle un mardi après-midi, et juste avant de pousser le petit portillon bleu qui donne accès à sa maison, j'ai eu un geste que je ne fais pas souvent, éteindre mon téléphone portable. Car Céline est hyper électrosensible. L'hyper-électrosensibilité, c'est une forme d'allergie aux ondes électromagnétiques. Notre environnement quotidien en est saturé en permanence. Les téléphones, les ordinateurs, le Wi-Fi, tout cela émet des ondes en quantité. Les personnes qui, comme Céline, déclenchent une hyper-électrosensibilité deviennent réactives à ces ondes. Entre beaucoup d'autres symptômes, elles peuvent provoquer des picotements et fourmillements, des migraines, des sensations de décharge électrique, des vertiges, des problèmes de concentration et de mémoire, ou encore des difficultés respiratoires. Lorsqu'une nouvelle borne Wi-Fi est installée sur le campus universitaire où elle travaille, Céline se retrouve du jour au lendemain obligée de changer sa vie en profondeur. Voici le récit de la découverte de sa pathologie et de tout ce qui en a découlé.
Je pense que pendant 2 ans, en fait, j'avais des problèmes de santé, je ne savais pas à quoi c'était lié. Je pense que je développais déjà une forme d'hyper-électrosensibilité. J'ai commencé à avoir des insomnies et des maux de tête. Et en fait, je n'avais jamais eu de maux de tête de ma vie, jamais eu d'insomnie. Donc, je ne comprenais pas. Je commençais à avoir des vertiges de plus en plus fréquents. Dans la journée, j'avais de nombreux vertiges. Je suis allée voir le médecin, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je commençais à avoir des problèmes de mémoire et de concentration. Alors, j'étais enseignante à l'université, donc ça posait vraiment des problèmes. Parce que du coup, en plein milieu des cours, je ne savais plus où j'en étais. Et donc du coup, le médecin ne savait pas ce que j'avais. Donc pendant 2 ans, j'ai fait des examens du cerveau, des IRM, des scanners, etc. Et puis on trouvait rien. Et en fait, le médecin a fini par me dire que c'était dans ma tête, que j'étais dépressive et hypochondriaque. Et puis voilà. Donc j'ai continué tant bien que mal comme ça. Et mon état se dégradait de plus en plus. Après, il y a une fatigue vraiment chronique qui s'est installée parce que comme je ne dormais plus du tout, j'étais fatiguée en permanence, j'avais des douleurs musculaires et articulaires, j'étais vraiment dans un état, j'étais très très mal, mais on ne savait pas ce que j'avais, donc je continuais comme je pouvais. D'un seul coup, mon état s'est fortement dégradé. Parce que c'était une période de fatigue pour moi, c'est la fin de l'année universitaire, donc beaucoup de travail. Mon état s'est beaucoup dégradé et là en fait, j'avais des picotements et des fourmillements dès que j'utilisais mon téléphone portable, dès que j'allumais mon ordinateur, dès que je rentrais chez moi. Et du coup, je me suis dit, j'ai fait un lien quand même avec mon téléphone portable, que chaque fois que je le tenais dans ma main en fait, j'avais des picotements au niveau de cette main où je tenais le téléphone portable. Et puis après, quand je le mettais à l'oreille, ça me brûlait l'oreille. Donc je téléphonais avec le téléphone portable de plus en plus éloigné de mon oreille. Jusqu'au point où je n'arrivais plus à téléphoner et j'envoyais des textos. Parce que je me disais, j'arrive plus à téléphoner, ça me brûle vraiment trop l'oreille. Et là, en fait, une fois, j'ai envoyé pas mal de textos à une amie qui me posait des questions parce que c'est vrai qu'on s'inquiétait un peu. Et là, j'ai eu des brûlures, en fait. Avec mon téléphone portable à la main, j'ai eu une brûlure, là, sur la main, et une brûlure dans le cou. C'était incroyable, incroyable. Et donc là, je suis allée sur mon ordinateur, sur Internet. Et en fait, j'ai tapé « brûlure, téléphone portable, picotement, fourmillement » et le mot « hyper-électrosensibilité » est apparu. Et j'ai lu les symptômes et je me suis dit « waouh, c'est tout ce que j'ai depuis 2 ans ». Même quand je suis retournée en fait voir le médecin en lui disant « ben, ça y est ». Je sais, ce dont je souffre, ben en fait, il m'a rionné. Il m'a rionné en disant « Ah, n'importe quoi, de toute façon, ça, c'est plus dans la tête des gens qu'autre chose, etc. » Voilà. Et il m'a dit « Tenez, prenez ces antidépresseurs et rentrez chez vous, et ça vous fera le plus grand bien. » Voilà, la conclusion du médecin. Quasiment du jour au lendemain, je ne supportais plus du tout les téléphones portables. Je supportais plus du tout la Wi-Fi. Et très rapidement, en moins d'une semaine, je n'ai plus pu dormir chez moi, en fait. Je devais partir avec ma voiture pour aller dormir dans ma voiture, loin de la ville, dans la forêt. Parce qu'en fait, dans mon immeuble, eh ben, je sentais les ondes des portables et des personnes qui arrivaient chez elles le soir. Je sentais les Wi-Fi, etc. Je sentais toutes ces connexions et c'était impossible de rester chez moi, quoi. Je me suis dit, peut-être ça va passer. Ça va passer. Là, c'est peut-être une période de crise. Je vais très mal. Mais voilà, ça va peut-être passer. Je vais peut-être aller mieux. Et en fait, je me suis rendu compte au fil des mois que finalement, c'est pas passé. Et j'ai dû quitter mon boulot, en fait. Je pouvais plus travailler. J'ai dû déménager. Je suis même partie en catastrophe tellement mon état était... C'était grave, j'habitais loin d'ici et en fait je suis venue me réfugier chez ma grand-mère dans les gorges du Tarn. Et voilà, et du jour au lendemain, en fait, ma vie s'est un peu arrêtée. Elle s'est complètement arrêtée parce que j'ai perdu mon boulot, j'ai dû déménager, je me suis retrouvée. Donc dans les gorges du Tarn, où on est quand même dans un petit village des gorges, quand même bien protégé, puisque les antennes relais les plus proches, elles sont à 8 km de part et d'autre, en amont et en aval du Tarn. Donc du coup, pas d'antenne relais à proximité. Ma grand-mère n'utilise pas de téléphone portable, c'était très bien. Pas de Wi-Fi, c'était très bien. Sauf que là, je suis allée, en fait, pendant cette période, quand je suis arrivée chez elle, je suis allée deux fois voir un médecin sur Paris qui est spécialisé dans l'hyperélectrosensibilité. Et en fait, pour moi, c'était très, très dur d'aller sur Paris. Ça a été très compliqué. Quand je suis revenue, j'ai atteint un autre stade dans l'électrosensibilité. J'étais encore plus touchée. Et là, je ne supportais plus l'électricité. Donc, j'étais sensible aux hautes fréquences. Les ondes des téléphones portables, de la Wi-Fi, ce sont des ondes de haute fréquence. Et je suis devenue sensible à des ondes de basse fréquence, donc l'électricité domestique, qui est du 50 Hz. Donc basse fréquence. Et là, je ne supportais plus une ampoule. Donc je ne pouvais plus rester habiter avec ma grand-mère. C'était à l'automne 2016. Et là, il a fallu que je trouve une solution en urgence. Et c'était pas simple. Tant bien que mal, on m'a prêté gentiment une maison à une demi-heure à pied de chez ma grand-mère, dans les bois. Voilà, j'avais pas de voisins, de gros murs en pierre, et donc j'ai passé l'hiver là. Et du coup, ben, pas d'électricité, donc pas de frigo, pas de lumière. Je me suis éclairée à la bougie pendant 2 ans. Et puis j'allais chez ma grand-mère tous les 2-3 jours à pied pour aller chercher à manger, en fait. Pour me ravitailler, pour avoir un petit lien social, pour échanger avec elle, Et puis aussi parce que j'avais du courrier, c'était important pour moi cette période-là de pouvoir communiquer avec des amis. Donc j'écrivais beaucoup vu que j'utilisais plus Internet, donc c'était le courrier postal. Puis ma grand-mère a fait aussi une chose formidable, c'est qu'elle a appris à scanner en fait. Donc elle faisait un peu relais, un peu ma secrétaire. C'est-à-dire que les amis qui m'écrivaient en fait, écrivaient et mettaient mon nom dans le message pour qu'elle m'imprime en fait les mails et elle me donnait en fait les courriels comme ça. Et puis moi en fait je répondais, ma grand-mère scannait et renvoyait mes réponses et ça me permettait d'avoir un lien en plus du courrier postal. Je passais beaucoup de temps dans la nature parce que finalement c'était ça le plus important en fait, ce qui m'aidait beaucoup en fait de pouvoir me passer du temps dans la nature pour me décharger donc loin des ondes. Donc on peut se décharger en fait en marchant pieds nus sur la terre. La terre, comme un appareil qu'on met à la terre en fait. Mais c'est comme ça qu'on se décharge. Ben nous c'est la même chose en fait. On peut se décharger en se mettant à la terre ou en fait en prenant régulièrement des bains. J'essaie de prendre des bains d'eau salée pour me décharger au maximum. Parce qu'en fait toutes ces ondes on les capte. Et du coup il faut décharger son corps. Donc j'ai passé beaucoup de temps dans la nature à me balader, à me décharger, à mettre les pieds dans la rivière, dans le Tarn, mes mains. À lire, c'est clair que la lecture, c'était, même si au départ je pouvais pas trop, je faisais des pauses, mais je lisais quand même pas mal. Et ça me faisait beaucoup de bien. Oui, parce que ça me permettait aussi de m'évader de mon quotidien et de penser à autre chose, parce que c'est vrai que c'était une période extrêmement difficile de perdre son travail, ses amis, sa vie sociale du jour au lendemain, de vivre un petit peu comme il y a peut-être, je sais pas, 60 ans en arrière, c'est difficile. J'ai aussi fait pas mal d'activités manuelles pour m'occuper, ce que je faisais pas du tout avant. Et j'ai commencé à faire de la vannerie. En fait, je suis allée essayer des cours de vannerie. Et puis, en fait, j'ai fait deux cours et c'était catastrophique. Je mettais chaque fois une semaine à m'en remettre du fait de l'exposition au portable. Donc, j'ai arrêté. J'ai expliqué à la dame qui organisait cet atelier que ce n'était pas possible pour moi. Et en fait, c'est une dame adorable. Elle a dit « Mais non, ça ne va pas se passer comme ça, puisque tu ne peux pas venir, ben c'est moi qui vais venir chez toi. » C'était vraiment formidable parce qu'elle est venue passer tous les mercredis après-midi pendant 2 ans avec moi pour m'apprendre la vannerie. Et ça, c'était génial. Donc du coup, ça me faisait une activité en fait manuelle et aussi un lien social très important pour moi, puisque je voyais quand même pas grand monde. Donc je savais que le mercredi après-midi, j'avais ça. Et puis en même temps, j'étais contente de pouvoir faire quelque chose, de faire des paniers, de pouvoir faire quelque chose de mes mains, de ne pas me dire ma vie, elle passe comme ça et je fais rien, en fait. De pouvoir construire des choses, d'avoir des projets, des objectifs, c'était important pour moi. À ce même moment, quand je pouvais plus sortir, j'ai voulu commencer à faire pareil de la musique, parce que je ne supportais même plus les piles à un moment donné. Je ne pouvais plus écouter la radio, plus la musique, et du coup c'était difficile pour moi. Donc je me suis dit pourquoi pas prendre un instrument de musique, et il y a un prof qui a accepté en fait de venir me donner des cours à domicile. Donc le jeudi, j'avais mon cours de guitare. J'essayais d'occuper un petit peu mes journées comme ça. J'ai commencé à faire du tricotage aussi avec ma grand-mère. Donc il y avait une après-midi où je faisais du tricot. Après, au printemps, j'ai commencé à faire du jardinage. Ça c'était très chouette, ça m'occupait beaucoup. Et puis je prenais beaucoup de plaisir à faire ça. En plus, ça me permettait d'être moins dépendante en fait, parce que c'était compliqué d'être dépendant comme ça. C'est pas évident de se retrouver en plus de la difficulté que représentait cet isolement. Il y avait aussi cette dépendance qui était difficile à vivre. J'étais partie à l'autre bout du monde travailler un petit peu partout à l'étranger. Et puis là, je me retrouve ici en Lozère et je suis dépendante à nouveau de mes parents et de ma famille. Et du coup, on a l'impression des fois d'être un poids aussi. Donc finalement, cette histoire de jardinage, c'était très chouette pour moi parce que je me suis dit waouh, je vais pouvoir cultiver mes légumes, en plus c'est mes légumes, donc je vais les faire pousser moi-même. C'est super gratifiant après de les voir grandir, grossir et de se nourrir de ses propres légumes, c'est chouette. Et donc ça m'a bien occupée.
Ça t'a donné l'amour de plein de choses en fait, quelque part, d'être contrainte et forcée.
Ça m'a appris beaucoup de choses aussi, c'est clair. C'est une expérience qui était très, très difficile, mais je pense qu'il y a eu. J'ai passé un cap à partir du moment où je me suis dit, en fait, cette expérience, elle se présente à moi. J'ai pas décidé à 37 ans, en fait, j'avais pas décidé de me retrouver ici, en Lozère, et de plus travailler, de vivre comme une ermite. Je me suis dit, ça se présente à moi. Je n'envisageais pas de faire une retraite méditative. Mais puisque ça se présente à moi, je vais l'accepter tel que c'est, je vais essayer de le vivre pleinement, et toute expérience est intéressante, et je vais essayer d'en retirer le maximum d'enseignement, et donc je vais le vivre pleinement, avec le moins de frustration possible, même si je ne dis pas que c'était facile, il y avait des moments où c'était très très dur, mais j'essayais en tout cas de garder ça en tête, de me dire, j'ai des choses à apprendre, ça va m'apprendre des choses, il y a plein de choses que je ne peux pas faire. Et là, je vais faire la liste de toutes les choses que je peux quand même faire. Et du coup, que je n'aurais jamais faites, sans doute, si je n'avais pas vécu ça. Donc du coup, je vais aller vers ces choses. Il y a encore des choses que je peux faire, donc je vais essayer de les faire et ça va m'apprendre des choses. Une chose qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est que en fait, on connaît très mal en fait l'hyperélectrosensibilité et même le médecin ne savait pas me dire si j'allais aller mieux, même le spécialiste. Et du coup, c'était très dur en fait de pas se projeter, de se dire c'est pas possible, je vais pas rester comme ça pendant 10 ans. Et donc à un moment donné, j'ai su qu'il y avait une personne électrosensible qui disait qu'elle était guérie. Et en fait, je lui ai écrit. Je lui ai demandé, est-ce que c'est vraiment vrai que tu es guérie? Est-ce qu'on peut vraiment aller mieux? Et elle m'a dit oui. Et et elle m'a expliqué un petit peu tout ce qu'elle avait fait. Et ça, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Au niveau moral, ça a été... Ça m'a boostée de manière assez incroyable. J'ai eu plein d'énergie d'un coup et je me suis dit... Mais si on peut y arriver, voilà, j'ai vraiment un objectif et c'est d'arriver à s'en sortir en fait. Et je me suis dit, si elle y est arrivée, pourquoi pas moi en fait. C'est pas encore simple, hein. Pour moi je vis quand même de manière protégée, mais là je supporte l'électricité, donc c'est déjà chouette. Je revis parce qu'il y a plein de choses que je faisais pas avant et que je fais encore, mais c'est quand même compliqué. Je réutilise par exemple l'ordinateur en me connectant sur internet avec en filaire, mais c'est vrai que je peux pas rester très longtemps sur l'ordinateur. Au bout de 3 quarts d'heure, je commence à avoir des picotements et des fourmillements. Donc voilà, et j'ai toujours besoin de récupérer en fait. En allant me balader, en prenant des douches, en jardinant, en n'utilisant pas tous ces appareils en fait. Donc si j'utilise un peu ou si je m'expose un petit peu, je vais en ville et j'ai toujours besoin de revenir chez moi et pour récupérer.
Et à quel moment et comment tu t'es dit, bon là ça commence à aller mieux, j'ai bien bossé, je suis prête à revenir habiter dans une maison, dans un village?
Non, ça s'est fait progressivement en fait. Et donc, quand ça commençait à aller mieux, en fait, c'est moi qui me suis exposée progressivement, en fait, à l'électricité. Par exemple, je disais une ampoule. Après, ça a été 2 ampoules. Après, ça avait été avec l'ordinateur. En faisant mes exercices, petit à petit, je sentais que ça allait mieux. Je suis pas allée tout de suite m'exposer à... Donc, j'y suis allée progressivement. Déjà, pour moi, de pouvoir allumer la lumière, rien qu'une heure le soir, c'était chouette, quoi. C'était chouette parce qu'avant, j'étais tout le temps à la bougie. De pouvoir allumer l'ordinateur et regarder, juste aller sur internet 5-10 minutes par jour, c'était super. Donc ça a été progressif, très progressif. Alors après, du coup, je me suis dit, je vais essayer de sortir, de me réexposer en faisant mes exercices, mais ça a été de manière très progressive. Et chaque fois, en revenant chez moi et en passant du temps à me décharger. Et c'est encore le cas maintenant, en fait. Hein. Sauf que maintenant, je sors quand même pas mal, beaucoup. Mais il faut que je fasse quand même attention parce que je sais que des fois je me rends compte que j'ai un peu abusé, parce que c'est difficile quand on va bien, on se dit waouh, ouais, super chouette. Des fois j'ai un peu abusé et puis je me retrouve avec un mal de tête et puis je dors pas de la nuit et je me dis bon, ok, on va attendre encore un petit peu avant de se réexposer. Voilà, ça bouillonne des fois en moi en fait. J'ai vraiment super envie de faire, je veux dire, je voyageais beaucoup et des fois j'ai envie de me dire waouh, allez, je pars, mais après voilà, je sais que c'est compliqué parce que des fois on va tellement bien qu'on oublie et puis en sens. Et puis après quand il y a le contre-coup, là c'est dur parce que du coup ouais. Après c'est vrai qu'il y a des phases qui sont plus ou moins faciles. Je sais que l'été en fait ça va beaucoup mieux, je supporte beaucoup mieux, je pense, parce qu'on vit beaucoup en extérieur, parce que je me baigne souvent, parce que je marche souvent pieds nus dans la terre, je me décharge beaucoup, et que l'hiver finalement on va utiliser beaucoup plus l'électricité, on va être beaucoup plus dans les maisons. Du coup je me décharge moins, donc des fois c'est plus compliqué pour moi l'hiver que l'été. Et Et donc, oui, ma vie sociale est beaucoup plus... ressemble plus à une vie sociale, en tout cas, ressemble à une petite vie sociale comparée à ce que j'ai vécu pendant 2 ans. C'est vrai que j'aimerais reprendre une activité professionnelle parce que, bon, pour l'instant, je me sens pas encore prête et voilà, c'est compliqué, hein. Mais je vais en ce sens, mais ça veut dire aussi une reconversion professionnelle parce que je ne me vois pas et reprendre mon activité d'enseignant-chercheur à l'université. Je ne vois pas aller revivre en ville, parce que les universités, c'est dans les villes, on ne trouve pas en Lozère, quoi qu'il y ait une antenne à Mende, mais bon. Et du coup, voilà, ça demande une reconversion professionnelle aussi. C'est pas évident de se reformer à 40 ans maintenant. Bah, après, ce qui m'inquiète un peu, c'est que même en Lozère, on est de plus en plus connectés. Et ça fait un petit peu peur. Donc là, voilà, la maison que mes parents ont achetée, là où j'habite, c'est Blajou, du coup. J'ai su, il y a quelques mois, qu'on allait installer, en fait, une antenne relais, juste en face de chez moi, sur la montagne en face, en fait, à Blajou. Donc ça, pour moi, c'est un petit peu source de stress, parce que je ne sais pas du tout comment je vais réagir à ça. Parce que jusqu'à présent, comme je le disais précédemment, j'étais protégée en vivant à 8 km d'une antenne relais. Et là, ils vont installer une antenne relais juste en face de chez moi. Donc, ça veut dire une exposition à laquelle mon corps n'est pas habitué. Donc, du coup, une exposition permanente. Donc, je m'interroge. J'espère... Bon, comme je vais de mieux en mieux, je me dis que je vais continuer à lier de mieux en mieux et que j'arriverai à supporter cette antenne relais. Mais c'est quand même inquiétant parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a de moins en moins d'endroits où on n'est pas exposé, où il n'y a pas d'onde, où on est dans des zones quasiment blanches, il y en a de moins en moins. Et ça, c'est vraiment un problème pour les personnes électrosensibles. Elles ne savent plus où aller, où se réfugier. L'omniprésence des ondes et l'installation de plus en plus importante d'antennes relais à droite à gauche, bientôt c'est la 5G, et ça aussi, c'est... Voilà, ça fait un petit peu peur, quoi. La 5G, le Linky, on installe de plus en plus des compteurs Linky. Donc ça, c'est source d'ondes électromagnétiques artificielles. Donc, tout le monde peut être impacté. Tout le monde du jour au lendemain. Moi, j'étais une personne en super santé, je faisais plein d'activités physiques et ça m'est tombé dessus un petit peu comme ça. Et c'est le cas pour plein d'autres personnes que je connais. Le Linky a déclenché une hyper-électrosensibilité chez certaines personnes qui n'étaient pas du tout hyper-électrosensibles. On leur a installé un Linky chez elles. Elles sont devenues hyper-électrosensibles parce que c'est une exposition supplémentaire à des ondes. Au bout d'un moment, le corps humain, il dit stop, en fait. Et il développe une forme d'allergie. Et ça concerne de plus en plus de monde. On entend de plus en plus de personnes qui souffrent d'hyper-électrosensibilité, même des jeunes, même des enfants. Et c'est assez catastrophique parce qu'ils sont exposés déjà dans le ventre de leur mère avec les tablettes connectées au Wi-Fi, avec les téléphones portables. On ne voyait pas ça avant. Et donc des enfants qui sont complètement désocialisés, qui ne peuvent plus aller à l'école. Et donc, je voulais dire aussi que les ondes électromagnétiques artificielles, elles ne causent pas, elles ne sont pas qu'à l'origine de l'hyper-électrosensibilité, elles sont à l'origine aussi d'autres pathologies. À l'heure actuelle, il y a des publications scientifiques qui sortent et qui montrent que les ondes artificielles constituent un facteur non négligeable dans le développement, par exemple, de maladies neurodégénératives telles que Alzheimer ou dans l'hyperactivité chez les enfants, sont à l'origine aussi de problèmes de stérilité chez des couples. Ce sont en tout cas des facteurs importants dans le développement de ces pathologies. Également pour les cancers, on parle qu'il y a un lien entre les ondes électromagnétiques artificielles et les tumeurs au cerveau. Donc ça concerne vraiment tout le monde et tout le monde peut développer des pathologies en lien avec les ondes électromagnétiques artificielles. Nous sommes complètement dépendants, oui, des technologies sans fil, portables, ordinateurs, des technologies, des nouvelles technologies. Et même pour moi, en fait, ça a été compliqué, en fait. J'ai vécu ça vraiment comme un sevrage. Quand j'ai dû arrêter d'utiliser mon portable quasiment du jour au lendemain, l'ordinateur, je vivais vraiment ça comme un sevrage. J'avais un manque de ne pas pouvoir me connecter, de ne pas pouvoir donner de nouvelles. Et parce qu'on est complètement dépendant de tout ça. Et maintenant, Je suis contente, en fait, de plus avoir cette dépendance. Et j'ai pas besoin, en fait, d'avoir un téléphone portable. Je dis pas qu'il faut vivre, parce qu'il y en a des fois qui nous disent « Oui, vous voulez revivre comme il y a 60 ans ». Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. C'est-à-dire utiliser les technologies de manière intelligente. L'ordinateur, Internet, pour moi, c'est un super outil. On peut trouver plein de choses. Après, de se connecter non-stop dès le réveil à 7h du matin et de regarder sa messagerie, bon, est-ce vraiment indispensable ? Est-ce vraiment indispensable d'avoir toujours un téléphone portable sur soi pour être joignable 24h, quasiment 24h sur 24 ? Non, je pense pas. Je pense que, voilà, ça apprend aussi à utiliser ces technologies de manière intelligente. Et du coup, à retrouver des choses que je pense beaucoup de personnes ont perdu. Effectivement, le lien avec la nature, c'est quand même extraordinaire des fois de retrouver ces petits bonheurs simples en fait qu'on oublie tout simplement, et rien qu'une petite balade à n'importe quelle saison, c'est tellement changeant, c'est tellement chouette en fait de retrouver ce lien avec la nature. Et en fait, je réalise à quel point, je l'avais un peu perdu, mais à quel point la plupart des personnes qui vivent autour de moi l'ont perdu, en fait. Ce lien vital, primaire, en fait, et sont éloignées de tout ça. Et à quel point c'est dommage, à quel point elles passent à côté de belles choses. Oui, c'est marrant parce que certaines personnes me disaient « Oh, ben on va trouver des médicaments pour l'électrosensibilité. » Je disais « Mais c'est pas trouver encore des médicaments, c'est revenir à un mode de vie plus sain. » En fait, ça apprend ça. Et il y en a certains qui disent, en fait, on est un peu des sentinelles des temps modernes ou des canaries des temps modernes. Parce qu'en fait, quelque part, on a peut-être cette sensibilité que les personnes, d'autres personnes n'ont pas. Et en fait, via cette pathologie, on est un signal d'alerte pour les autres personnes, leur dire attention, attention, c'est nocif, et faut faire attention à l'utilisation, et regardez ce qui se passe, regardez ce qui nous arrive. En fait, on est un signal d'alarme, il faut faire attention, ça peut vous arriver aussi à vous, et fermez pas les yeux. Aujourd'hui, parfois, je me dis, n'oublie pas ce que t'as vécu, parce que c'est vrai que je peux avoir moins tendance à aller dehors. Avant, je faisais des balades, voilà, c'était 3-4 heures par jour, hein, parce que ça me faisait véritablement du bien. Et des fois, je me dis, oh là là, je reste à la maison, je reste et je ne sors pas. Et je me dis, mais n'oublie pas tout ça, allez, va dehors et tu verras que ça te fera du bien. Et je me dis, c'est fou comme on oublie vite. Donc j'essaie vraiment de me raccrocher à ça. Je continue aussi le yoga et la méditation, ça me permet en fait de me reposer, de me rappeler ce que j'ai vécu, de me rappeler à mon souvenir en fait tous les enseignements que j'ai tirés de cette expérience. Et parce qu'en fait c'est pas terminé encore, hein. Comme je le disais, j'ai encore du chemin à parcourir, donc dans les moments qui sont encore un peu difficiles, voilà, je me reconnecte et j'essaie de vraiment repenser à tous ces enseignements et d'appliquer, même si c'est pas toujours évident. Mais du recul en tout cas, du recul sur notre monde. Et là encore aujourd'hui, des fois je suis en colère contre certaines petites choses, puis après je me dis non mais attends, c'est des bêtises tout ça. Rappelle-toi, c'est pas ça l'essentiel, c'est des bêtises, allez. Et du coup effectivement ça permet de voir la vie quand même différemment.